Le bonjour lumineux, chaleureux à chacun de vous. Que le souffle de Raphaël soit avec vous. Le souffle de Raphaël qui veut nous unir, vous voyez, qui veut nous unir entre nous, mais aussi avec notre âme. Raphaël veut nous amener vers cette vision supérieure que on est un souffle et qu'on est à l'image du souffle qui entre et qui sort du corps, qu'on est sur la terre des passants, comme disait Jésus. Sur la terre, soyez des passants, à ne pas confondre avec passif, hein. Il n'a pas dit soyez passif, il a dit soyez passants, c'est-à-dire ne vous identifiez pas à ce qui est mortel, ne faites pas votre demeure sur la terre. Rappelez-vous d'où vous venez comme le souffle qui vient vers nous dans l'inspire. Et qui nous parle de notre âme en réalité. Que c'est pas forcément. Oui, il y a le corps qui inspire quand on dit j'inspire. Qui ai-je qui dit j'inspire? Mais c'est le corps. Mais est-ce qu'on est le corps? Non. C'est une façon de regarder. C'est juste un point de vue. En réalité, quand on dit j'inspire et que notre corps inspire, bah c'est notre âme qui expire en nous, vous voyez, qui rentre à l'intérieur de nous. Et quand on dit j'expire, c'est notre âme qui nous inspire. C'est un jeu de langage, mais c'est réel. C'est réel, c'est une façon de voir différente. D'ailleurs, on le dit dans le langage. Je suis inspiré, j'ai été inspiré. C'est-à-dire, il y a un monde qui m'a inspiré, qui m'a emmené dans son royaume. Et alors, on dit, j'ai été inspiré. Voilà. Parce que c'est la partie de nous qui est enfermé dans le corps, qui a été emmené dans un monde d'idées, de pensées, et alors on a été inspiré. On est sans arrêt dans une respiration et dans un échange d'énergie, de vie, de communion avec un monde. Comme je vous disais hier, avec cette image de, où je voyais comme ma tête qui fumait dans le, dans l'ombre. Dans l'ombre portée, ben c'est ça, on est sans arrêt dans un échange avec des mondes. On peut penser aussi au commandement de Gabriel, n'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort. C'est-à-dire, voilà, sois conscient de ce que tu émanes et de ce que tu attires et de ce qui sort de toi dans l'expire et qui inspire ce que tu expires. Vous voyez? N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie afin qu'elle s'anime en toi. Jésus dit aussi cette parole qui est très mystérieuse et qu'il faut approfondir à la lumière des enseignements de Raphaël. Il dit, ce n'est pas ce qui entre à l'intérieur de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort, vous voyez, parce que c'est ce qui sort de nous qui va attirer des mondes. C'est ce que c'est, ça rejoint ce dont je vous parlais hier aussi avec la bénédiction. Pourquoi Jésus dit ça? Ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, parce que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé autour de l'homme est béni, est dans la bénédiction de Dieu. Mais l'homme, en fonction de ce qui va émaner, de ce qui va sortir de lui, alors il va attirer soit des mondes de pourriture, des mondes en décomposition, et il va vivre avec, soit il va décider consciemment, parce que ça peut être que consciemment, de donner son énergie, son attention, sa pensée, ces paroles pour nourrir un monde de lumière. Alors Raphaël, il veut qu'on entre dans cette conscience des échanges subtils, dans notre vie subtile. Ouais, Gabriel va nous parler des relations, mais même Gabriel, il va plus loin, il ne parle pas en réalité que des relations humaines. Il y a toute une subtilité dans l'eau et dans la vision de l'eau. Il nous parle bien sûr aussi du côté subtil, Gabriel. Et Raphaël, il veut nous éveiller dans la notion des échanges. Donc quelque part, on parle toujours des relations, mais à un niveau plus subtil. Il veut qu'on prenne conscience que l'homme est un centre d'échange, comme une plaque tournante, où il y a plein d'influences qui se mélangent, il y a plein de respirations, il y a plein d'échanges dans tous les mondes, et il veut nous éveiller dans l'échange juste et dans ce qui va nourrir notre âme. Que ta, ouais, oui, son vœu, que ta pensée soit ton ange bienveillant. Il veut qu'on utilise notre pensée, Raphaël, pour attirer des mondes lumineux, pour nourrir des mondes lumineux, pour éveiller notre conscience. Voilà, il veut qu'on renforce la flamme de la conscience. Vous voyez, l'air est lié aussi à la combustion. L'air nourrit un feu en nous. On dit d'un être qui est parti, on dit il s'est éteint. C'est-à-dire que voilà, l'air, l'âme, a quitté le corps parce que c'est l'âme qui vit, c'est pas le corps. Alors, et il y a cette notion aussi avec Raphaël où vraiment il veut que on connaisse ces trois étapes qui étaient des questions que le Sphinx posait aux initiés. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où marches-tu? Ouais, c'est les trois temps. D'où viens-tu? Le passé. Qui es-tu? Le présent. Et où te conduisent tes pas? Vers quel chemin tu vas? Vers quel chemin te conduisent tes pas? Et c'est le souffle. Ces trois questions, elles nous parlent du souffle. D'où venons-nous? Bah, c'est l'origine de l'inspire, l'origine de notre âme. Qui es-tu? Bah, dans ce corps où ton âme est descendue, tu dois savoir qui tu es. Hein. Le texte de Raphaël pour sa célébration, là, quand on fait la consécration du temple, où il nous parle de l'identification. Tu dois savoir, tu es une âme, déjà tu dois savoir te rappeler que tu es une âme qui est descendue dans un corps. Et tu dois être identifié, tu dois être posé. Il dit des paroles très fortes dans ce texte. Alors, quand tu dois être posé sur le socle d'une identification claire, c'est-à-dire tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens, donc l'origine du souffle, l'inspire, d'où je viens. Je suis pas ce corps, je suis une âme qui est descendue dans ce corps. J'ai une origine divine. Donc, d'où je viens, l'homme, c'est le début du chemin, quelque part de la lumière, de l'initiation. C'est parce que si l'homme rencontre la lumière, cherche la lumière dans sa vie, c'est parce qu'il a l'éveil quelque part de ce souvenir divin. Ou alors il l'a pas et alors il se laisse vivre comme un corps et comme juste un être mortel. Voilà, donc c'est ça. Ou alors on se rappelle vaguement parce que quelque part c'est comme un souvenir. Vague, cette nostalgie qui à un moment donné vient habiter l'enfant de la lumière qui cherche la lumière parce que quelque part il se rappelle, il sait au fond de lui que sur cette terre il est que de passage. Et il aspire à retrouver son chemin. Et pour retrouver son chemin, il doit se rappeler que il vient d'un monde grand, d'un monde vaste, d'une origine divine. Et après, il y a encore tout un chemin. Pour pouvoir répondre à cette question, qui es-tu? De savoir vraiment qui on est dans cette vie. C'était l'initiation justement du Sphinx dont Olivier nous a parlé à plusieurs reprises et qui s'est réincarné aujourd'hui, qui est ressuscité sous la forme de ce que l'ange de Dieu, c'est un ange hein, qui a transmis ce chemin des formations esséniennes, ça vient des anges, avec cette initiation fondamentale qui est très importante, hein, qu'il faut vraiment approfondir. Et sans arrêt approfondir des quatre corps. Cette notion des quatre corps est fondamentale pour nous. Et qui conduit finalement à la prise de conscience de qui on est. Mais vous voyez pas d'une façon vague juste de dire, c'est déjà beau de pouvoir dire je suis une âme. C'est un fondement. Mais après, l'homme doit vraiment atteindre la connaissance de lui-même et savoir qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. Sur la terre dans cette incarnation. C'est ce qu'on appelle le nom de la mère. Parce que c'est la mère, vous voyez, qui nous accueille. Dans ce monde, sur cette terre, c'est la mère qui nous accueille, c'est pas le père. Le père, il est dans des mondes supérieurs, il nous a enfantés dans la lumière, il a enfanté nos âmes, et après, nos âmes, elles sont sorties de lui. Quelque part, elles ont décidé, c'est leur choix. Nos âmes ont fait ce choix, à un moment donné, dans des temps incalculables, immémoriaux, de sortir de Dieu et de faire tout un chemin pour ensuite pouvoir retourner vers Dieu en conscience. Mais ça, c'est la mer. C'est la mer qui nous conduit. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par la mer. C'est-à-dire, nul ne peut aller vers son origine divine, retrouver son origine, s'il passe pas par la mer, de se former dans l'école de la mer, de la sagesse de la mer, de reformer ses quatre corps pour ensuite être enfanté par la mer. Nul ne peut aller au Père sans passer par la mer. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas une seconde fois par l'eau et le feu. Pourquoi il n'a pas dit la... C'est une méditation d'ailleurs ça. Pourquoi Jésus n'a pas dit la terre et l'air? Parce que la terre et l'air, on l'a déjà, on vit en permanence avec. La terre, on est tout le temps dessus, on ne peut pas faire autrement. Et on vit avec notre corps. L'air, on l'a, on respire en permanence. Et si vous regardez, c'est intéressant de regarder cette parole de Jésus sous cet angle. Parce que l'eau et le feu, ce n'est pas des éléments qu'on a naturellement et facilement. Regardez, toutes les civilisations qui se sont construites, ils ont cherché où était l'eau, parce qu'ils savaient que l'eau est un fondement pour construire la vie sur Terre. Et l'eau, tu ne l'as pas n'importe où, tu ne l'as pas si facilement que ça. Et le feu, ben, le feu, c'est le mystère plus grand de ton être véritable. Que tu dois retrouver. Et l'eau sur la terre, c'est aussi le corps de la tradition. C'est un lieu où tu peux recevoir la bénédiction de la source de la vie, du fleuve de la tradition. Donc, renaître par l'eau et le feu, ça veut dire d'abord rencontrer la mer à travers une tradition, à travers un corps qui fait vivre le monde divin sur la terre et qui connaît l'origine. Du fleuve qui connaît la source, qui vit avec la source. Alors tu es intégré dans un corps comme dans un placentin. La mer, elle se manifeste sur la terre à travers le corps de la tradition de la lumière, la tradition des maîtres, la tradition incarnée sur la terre, c'est la mer, c'est le lieu où l'homme peut renaître, où il peut rencontrer l'eau de la vie. Sinon, il est dans l'aridité, il est dans la stérilité, il est que avec la terre. Mais l'eau avec l'eau apparaît la vie. Et la vie sur la terre, pour nous, c'est elle apparaît la vie, la vraie vie, la vie de l'âme, elle apparaît avec la tradition, avec les maîtres, avec le monde de la sagesse, un monde qui vit en harmonie avec le monde divin. Alors, l'homme peut entrer sur le chemin du travail sur lui, entrer sur le chemin de la connaissance de lui, de l'apprentissage, de l'étude, pour à un moment donné atteindre cette renaissance. Du feu, c'est-à-dire l'illumination, le feu du Saint-Esprit, la colonne de lumière qui s'éveille en l'homme et où l'homme sait exactement qui il est, pourquoi il est sur la terre et où il se met à devenir un créateur. Vous voyez, le plus haut, c'est quand même particulier de voir ça dans les 22 commandements aussi. Le plus haut commandement ne nous parle pas de monde spirituel, vous voyez, de monde lointain. Non, non, sois actif et créateur. Il nous parle de l'être qui a repris possession de lui-même, de son royaume, qui a travaillé sur lui, qui s'est purifié par l'eau, et qui est prêt à être empli par l'air, par le souffle de Raphaël, par le souffle de son âme, parce qu'il a reconstruit tout son être, tout son corps, il a purifié tous ses organes, toutes les relations avec tous les mondes, et alors il est prêt à être actif et créateur, il est conscient, il est très fort ce psaume, quand on a travaillé ici, et vous aussi, j'imagine, chez vous, où il nous parle, il y a vraiment des paroles particulières dans ce psaume, où il nous explique qu'on est sur un fil, qu'on doit toujours rester conscient, parce qu'on peut se faire attraper, que l'œuvre d'un jour, elle n'est pas acquise, et qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut sans arrêt réactualiser nos engagements, notre volonté d'être avec la lumière, parce qu'on est sur un fil, et à tout moment, on peut se faire attraper. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, cette parole est vraiment forte, hein. C'est-à-dire, vraiment, c'est de sortir de la passivité. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu ne laisses pas passer une journée où tu ne fais pas même un petit acte pour le monde divin, pour la lumière. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière. Tu seras un constructeur, un créateur. Et non pas pour t'associer avec ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Alors voilà, c'est tout un chemin sur la terre, déjà de se rappeler, de réveiller la mémoire, c'est pas du tout tout le monde. C'est parce que tu as nourri la lumière dans d'autres vies qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que oui, la terre n'est pas ni l'origine, ni l'aboutissement. Elle est une merveille, elle est une grande école de sagesse, mais elle est aussi le lieu où le sombre existe, où l'homme peut se faire attraper par un monde et perdre le fil d'Ariane, le fil de la vie. Alors c'est tout un chemin déjà sur la Terre pour se rappeler notre origine divine, trouver un endroit, c'est ça, une école de Dieu, une tradition, trouver un endroit où tu pourras marcher sur le chemin qui te conduit vers ton âme, où tu pourras vivre avec ton âme, parce que c'est pas le tout de se rappeler qu'on est une âme. Après, il faut comme trouver les conditions à l'extérieur ou l'atmosphère propice qui va faire que tu vas pouvoir nourrir cette connexion, cette reliance avec ton âme. Et ensuite, et ben tout un chemin encore pour arriver à se rappeler, à trouver qui on est réellement dans cette vie, dans cette incarnation, ce qu'on appelle le nom de la mère. Et après, ben bien souvent, on voit que le temps passe vite et qu'il ne nous reste pas forcément tant de temps que ça, même quand on peut découvrir quelle est notre mission. Mais ce n'est pas grave, ça c'est une vision, ce que je viens de vous dire là, quelque part c'est une vision qui n'est pas forcément absolue, vous voyez, parce que tout ce que tu fais dans cette vie, par exemple, même si tu rencontres l'enseignement sur le tard dans ta vie, il faut pas penser comme ça. C'est pas forcément négatif ou c'est pas forcément, comment dire, quelque chose sur lequel il faudrait se lamenter. Non, parce que tout ce que tu vas faire dans cette vie, même si c'est quelques années, parce que le plus important de toute façon, c'est la fin, c'est la façon dont tu partiras de cette terre. Donc, tout ce que tu auras fait pour le monde divin, pour servir le monde divin, même si tu as rencontré la lumière sur le tard, ce sera ça de gagner, entre guillemets, et pour ta vie prochaine, et avec tout le travail qui est fait dans la nation essénienne pour cultiver la mémoire, pour prendre soin de la mémoire, tout ce soutien mutuel qui est lié au mémorial, qui est lié au passage du voile, c'est une merveille, c'est une splendeur. Et en réalité, c'est pas forcément la quantité, oui, de ce que tu as fait sur la terre, même en tant qu'Essénien, c'est une mauvaise façon de penser, ça, c'est une façon de penser humaine. Oui, mais j'ai pas pu réellement faire ce que je voulais, ou ah bah lui, il a fait tout ça. Mais non, il n'y a pas de. Il n'y a pas. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce que tu as fait, la conscience que tu as mise dans ce que tu as fait. Si, admettons, par exemple, tu as pu œuvrer que, je sais pas moi, 5, 6 ans, 7 ans pour la nation essénienne à la fin de ta vie, ben c'est une bénédiction, c'est un capital avec lequel tu vas quitter la terre et qui va être une force qui va te permettre peut-être déjà de garder la mémoire, une certaine mémoire après la mort, et en te réincarnant, de retrouver ce chemin. Puis la troisième question, ça, où? C'est la question que pose le souffle, hein, c'est des questions de Raphaël. D'où viens-tu? Qui es-tu? Et où te conduisent tes pas? C'est les trois. C'est l'inspire. Ensuite, c'est le moment où l'inspire s'arrête, où on est comme en dehors du temps, c'est-à-dire mais dans le présent, dans le jeu, et de savoir quel est ton je suis dans cette vie. Tu es quoi? Je suis, voilà, le nom de la mère. Tu dois savoir qui tu es, ce que tu es venu faire sur la terre. Et ensuite l'accomplir du mieux que tu peux. Du mieux que tu peux en donnant le meilleur de toi-même. Comme disaient nos ancêtres les Cathares. Donne le meilleur de toi-même. Voilà. C'est ça qui sera regardé quand on passera de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a fait avec les éléments qu'on avait? Qui était à notre disposition. Elle ne nous est pas demandé de faire des choses extraordinaires. Hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Dieu n'est pas dans l'extraordinaire, il est dans l'ordinaire qui est magnifié, qui est sanctifié, qui est élevé, qui est rendu beau, noble, bon pour toi, bon pour les autres, bon pour le monde divin, ça c'est la perfection, d'arriver à faire des choses qui sont bonnes pour le monde divin, qui sont utiles à un monde supérieur. C'est ce que nous essayons de faire dans. C'est ce pourquoi nous travaillons dans la nation essénienne. Alors justement par rapport à ça, on va essayer aussi de conduire. On a fait ce rituel hier. C'était vraiment très beau. C'est tout un travail. Ça ouvre des portes. Ça active tout un processus qui est lié à Raphaël de séparer le subtil de l'épais, de rendre au recyclage ce qui appartient au recyclage, d'arrêter de donner de l'importance, de la force à des choses qui ne sont pas utiles, voire même qui sont nuisibles, comme les ragots. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Même dans la nation essénienne, c'est là, hein, c'est présent. On doit apprendre à diminuer la force qu'on donne à des choses qui seront toujours là. Les problèmes, les pauvres, vous les aurez toujours, parole de Jésus. Occupez-vous de la lumière parce qu'elle, vous ne savez pas pour combien de temps vous l'avez. Mais non, les hommes, toujours à brasser le sombre, à laisser nos oreilles traîner à droite, à gauche, à donner de l'importance à des choses qui n'en ont vraiment pas. Qu'est-ce qu'on se fait attraper avec ça? Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Si on arrivait à sortir de ça, vraiment, on donne trop d'importance. Ah, j'ai entendu, si, t'as vu, un tel, il a dit ça. Mais on n'a pas autre chose à faire que ça. Sais pas si vous entendiez hier dans la cérémonie, y avait un prêtre qui lisait un psaume, le psaume 104 de Gabriel, là, sur le serpent de la sagesse. Mais alors, moi j'étais à côté, mais vraiment, c'était puissant, c'était puissant, ça activait la cérémonie, vraiment. Et vous l'entendiez pas forcément, mais en réalité, c'était une force. Mais vraiment, dedans, il y a des clés dans ce psaume incroyable. Notamment sur les relations, sur beaucoup de choses, et sur le fait de se faire attraper par le son, d'entendre par exemple des choses, et de se polariser, de donner de la force à ça. Et il dit alors, si tu rentres dans ce processus, c'est que le serpent destructeur est rentré. T'es plus avec le serpent de la sagesse qui équilibre les mondes. Il dit, tu dois voir le négatif. Mais tu dois pas, tu dois pas te concentrer dessus. Tu dois presque faire comme s'il n'existait pas. Alors c'est un rappel à l'ordre, hein. C'est quelque chose qu'il faut sans arrêt. Personne n'échappe à cette discipline. Et c'est une discipline de Gabriel, hein. C'est un psaume de Gabriel qui nous parle du serpent de la destruction et du serpent de la sagesse. À qui on donne la force? Et est-ce qu'on est en équilibre? Est-ce qu'on demeure vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie? Ou est-ce qu'on donne toute notre attention, nos pensées, à tout ce qui peut venir vers nous pour nous décentrer et finalement nous attraper dans un monde. Voilà, donc c'est tout un travail, c'est toute une discipline. Et c'est une clé pour équilibrer les relations, bien sûr, entre l'homme et la femme, et les relations entre nous tous, aussi dans la communauté. Alors on va continuer, vous voyez, aujourd'hui, on va continuer à travailler quelque part dans le sens de ce que Gabriel nous a demandé, parce qu'il a dit dans son psaume de conclusion, qui a été quand même donné deux fois, que à Raphaël, on devait poursuivre le travail et comme finaliser, faire une offrande, être capable de faire une offrande. On a nos imperfections, voilà, c'est accepté, mais voilà, on doit les mettre dans le recyclage. Ce qu'on a fait hier, après bien sûr, il faut le mettre en pratique, hein, dans la vie quotidienne. Mais on doit vraiment montrer à l'archange Gabriel, parce que Gabriel et Raphaël, oui, ils sont un, on ne peut pas aller, c'est ce que je vous disais, on peut vraiment adapter cette parole de Jésus et dire, nul ne peut aller vers Raphaël sans passer par Gabriel. Je vous dis, c'est un psaume de Raphaël qui nous parle des 22 commandements et qui nous dit qu'on doit passer par les 22 marches, par la discipline de l'eau, de purifier l'eau, de travailler l'eau, pour ensuite pouvoir s'élever vers Raphaël. Alors cet après-midi, c'est lié à Raphaël et à Gabriel quelque part. On va faire cette cérémonie du cercle des sages, une très belle cérémonie vraiment très puissante. C'est le chant que vous avez fait là, c'est le chant de cette cérémonie qui va nous préparer aussi à l'offrande, à Raphaël, l'offrande du sceau de la santé. Mais vous voyez, avant d'aller vers le sceau de la santé, le travail qu'on va faire demain soir, vendredi soir, on va essayer de donner une force à Gabriel par rapport à ce qu'il nous a demandé et pour lequel on a travaillé, une force vraiment au sceau de la famille. Donc on va faire une cérémonie qui avait d'ailleurs déjà été faite il y a une vingtaine d'années, hein, ça remonte, avec Olivier, qu'on avait faite à Raphaël d'ailleurs, et qui était en lien avec le couple, et d'activer cette union, parce que Raphaël, il veut qu'on soit sur la terre comme on est au ciel. Donc lui, il va nous dire, par exemple, Raphaël, que le couple sur la terre, est un reflet. Et un reflet en bas du couple originel, qui est bien sûr le père et la mère, mais qui est aussi nous, notre âme sur la terre, qui est incarnée dans un corps avec notre âme immortelle. Vous voyez, c'est ce couple-là qu'on doit reconstituer avant de former. Bien sûr, on peut former un couple sur la terre, un couple terrestre, mais ce couple terrestre, il sera jamais réellement dans l'équilibre si si l'homme ou la femme cherche dans l'autre, dans son conjoint, ce qui lui manque, et que finalement, il peut trouver qu'à l'intérieur de lui et dans ce qui a été appelé l'âme sœur. Raphaël a d'ailleurs, je vais vous lire quelques paroles après. Raphaël a donné un psaume magnifique sur l'âme sœur et sur le couple. Il a comme voulu guérir, nettoyer cette idée de l'âme sœur. Et que quelque part, l'âme sœur, on ne peut pas la rencontrer. On peut trouver sur la terre un partenaire féminin, masculin, bien sûr, qui va nous équilibrer et avec lequel on va pouvoir, comme des associés, faire quelque chose, faire une œuvre, mettre des enfants au monde, mais poser quelque chose sur la terre, faire une œuvre, mais reconstituer, c'est le couple intérieur, c'est de retrouver notre âme. Vous voyez, je vous parlais du souffle, l'inspire et l'expire, alors on doit retrouver l'origine de notre âme. On doit rétablir le lien entre l'âme qui est dans le corps et l'âme qui est au-delà du corps, ce qu'on appelle l'âme immortelle. Voilà. Donc on va ce soir faire une cérémonie où il y aura un couple physique, hein, qui sera représenté, mais comme un reflet, vous comprenez, comme un reflet du couple originel, du couple primordial, du père et de la mère. Et on va faire toute une magie, une offrande avec l'eau, avec une fresque du couple sacré qu'Olivier a retrouvé, qui est connu, hein, en Égypte, et qui est porteuse de grands secrets, dont je vous parlerai un peu plus ce soir avant la cérémonie. Parce qu'elle a toute une histoire, cette fresque, qui est magnifique, qui est vraiment comme tout un langage et tout un monde. Alors voilà, on va vraiment se donner pour faire une offrande à l'archange Gabriel, et que dans la continuité de tout ce qui a été fait dans sa célébration, après sa célébration, et vraiment de donner une force à ce sceau de la famille dans tous les mondes, pour qu'on puisse ensuite, sinon on ne pourra pas en fait, c'est mathématique, on ne pourra pas comme ouvrir la porte, une porte qui est liée au sceau de la santé, si on ne fait pas d'abord une offrande qui ouvre des portes pour le sceau de la famille. Normalement, on a toutes les conditions. Si on est vraiment là, présent avec notre cœur, avec notre âme, de donner le meilleur de nous-mêmes, alors ce qui doit se faire se fera. Alors voilà, je voulais vous lire quelques paroles parce que ce psaume, vraiment, il apporte toute une guérison. Parce que le couple, c'est tout un sujet aujourd'hui. On est beaucoup concentré là-dessus, quelque part, nous les humains aujourd'hui à notre époque. Et vous allez voir que l'archange nous explique tout un point de vue, toute une vision pour nous montrer que les hommes n'ont pas toujours pensé de cette façon et qu'ils ont eu d'autres visions du couple dans les temps anciens. Et quelque part, ce psaume nous montre aussi la chute, hein, nous montre que si aujourd'hui il y a une telle destruction dans les couples, dans les familles, c'est parce que on a donné l'importance, la primauté, la première place au corps physique. Et on s'est tellement éloigné des mondes supérieurs et du couple divin, de l'alliance avec les mondes supérieurs, qu'on a tout mis dans le corps physique. Et en cherchant l'accomplissement, la plénitude dans le plan physique, ben, on arrivait à l'opposé, parce qu'il n'y a jamais eu d'époque sur la Terre. Faut quand même être conscient de ça. C'est pas, comment dire, il faut pas de nouveau s'en lamenter ou s'en culpabiliser. C'est juste un fait, un constat. Et à partir d'un constat, d'un éveil, d'une prise de conscience, on peut remonter la pente. Mais si on n'a pas la prise de conscience, on peut rien faire. Mais faut quand même bien voir, faut quand même bien être conscient que l'humanité a jamais été dans un tel état de déchéance, de perte de sens, et jusque dans ce sceau de la famille. C'est les hommes vivaient pas du tout comme ça avant. Il y a eu d'autres époques, hein. Il y a eu d'autres époques où il y a eu des grands conflits entre le principe masculin et le principe féminin. Je dis pas que je veux pas, comment dire, édulcorer le passé, hein. Il y a eu des époques, notamment, on sait par notre tradition et par la vision de l'histoire qu'on a dans la nation essénienne, on sait que, par exemple, dans ces pays-là, d'ailleurs dans ces contrées où on est, il y a eu une époque où, par exemple, c'était le côté féminin qui était dans la domination et même qui asservissait les hommes, avec des druidesses, le côté féminin qui a complètement chuté à un moment donné. Et puis vous avez eu après le côté masculin qui a fait les mêmes choses et qui a rejeté la femme. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas nouveau. Je blâme pas l'époque dans laquelle on est. Hein. C'est pas du tout ça le sujet. C'est simplement que ça a pris des proportions. Ça a pris des proportions vraiment grandes. Et à qui ça profite finalement? À qui ça profite? On voit bien que c'est un monde de destruction. Hein, le psaume d'hier qui nous parlait du serpent de la sagesse et du serpent destructeur, c'est vraiment le serpent destructeur qui est rentré dans les relations entre les hommes et les femmes, et que l'homme et la femme, là-dedans, ils sont perdus. L'âme, elle est affaiblie. Donc si l'âme, elle est affaiblie, qui est renforcé? Ben, c'est un monde sombre, c'est un monde qui cherche à tout détruire. C'est le dévoreur de soleil, comme disaient les Égyptiens. Voilà, donc il y a tout un travail. C'est pour ça aussi, il faut comprendre tout le contexte. C'est dur de rétablir ce sceau de la famille aujourd'hui sur la Terre, dans notre époque, dans la force, dans sa force primordiale, parce que vraiment, c'est le socle. Si la famille est détruite, c'est comme le dernier rempart, la famille. Si la famille est détruite, si la famille est attaquée, alors l'homme, il a vraiment plus de, il a plus de repères, il est perdu. Il est perdu. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un extrait de conférence d'Olivier. Je vous partage juste ça parce que il parlait de ce sujet justement. Et c'était un éveil parce qu'il posait dans sa conférence des bases sur le couple, sur la famille. Et on voit bien à un moment donné, avec les propos qu'il tient, que il se rend compte, il voit les pensées que ça génère et le trouble que ça peut générer chez les Esséniens, et comme la culpabilité, parce que bien sûr aujourd'hui c'est énorme le nombre de personnes, d'hommes et de femmes qui ont divorcé dans leur vie, c'est presque la norme aujourd'hui. Moi je me souviens déjà à mon époque, quand j'étais jeune, à l'école, déjà. Donc il y a une trentaine, il y a plus de 30 ans, eh bien ça devenait déjà comme une norme, et je devenais déjà presque un peu bizarre d'avoir une famille unie, vous comprenez? Avec un père et une mère qui étaient ensemble. Oui, déjà. Mais maintenant, c'est énorme. C'est énorme, ça a énormément augmenté. Et si vous voulez, Voilà, et Olivier, à un moment donné, il dit certaines paroles dans la conférence parce que il voit bien ce que ça peut générer chez les Esséniens. Et il dit cette parole que je vous redis parce que quelque part, c'est important d'avoir ces notions. Il dit, mais il dit, mais où avez-vous entendu que le monde divin vous demandez de réaliser l'enseignement à la perfection? On ne vous demande pas de réaliser, d'incarner forcément. Bien sûr qu'on doit tendre vers le fait d'incarner l'enseignement, mais il disait, en fin de compte, arrêtez de croire que vous devez être comme une incarnation, un modèle parfait de ce que dit l'enseignement. Mais Olivier précise en disant ça, il dit, mais ne m'empêchez pas non plus de rappeler les valeurs qui sont la vraie norme, parce que aujourd'hui on est dans un inversement total des valeurs. Donc il dit voilà, ne m'empêchez pas non plus de dire ce qui est juste, ce qui devrait être. Et c'est pas grave si par exemple tu as divorcé, mais c'est pas grave. Mais à l'intérieur de toi, nourris une vision plus grande et elle se réalisera dans d'autres vies ou peut-être dans une autre époque. Où il y aura des conditions, d'autres conditions de vie sur la Terre, mais si vous voulez, on n'est pas obligé. Non, parce qu'après, ça peut faire naître un sentiment de culpabilité ou de. Mais parce qu'aussi, peut-être, on est trop idéaliste. C'est pas grave. Et oui, voilà, il rappelait aussi dans cette conférence que, en réalité, c'est pas réellement toi qui es coupable, par exemple. Si t'as dit, ça a été voulu. Voilà, il rappelait ça. Ça a été voulu. C'est pas toi qui as divorcé. C'est un monde qui l'a fait à travers toi, parce que c'est voulu comme pour être la nouvelle norme qui va qui pour amener des forces de destruction sur la Terre. C'est pas l'homme croit que c'est lui qui décide. Mais en réalité, non, c'est un monde qui a décidé pour affaiblir les hommes, pour les conduire dans la grande faiblesse. C'est un monde qui a décidé que ça se passe comme ça. Et qu'à la fin, ça devienne comme presque un automatisme. Mais dès que ça va pas, dès qu'il y a une épreuve dans la vie des couples, ben voilà, on va tout envoyer balader, on va tout envoyer promener, en pensant que c'est le chemin de la facilité. Mais l'enseignement nous dit plus c'est facile, plus c'est difficile. Ouais. Et donc, y a un gros travail à faire, mais soyons dans l'indulgence et la tolérance. Ça veut pas dire qu'il faut tout permettre, mais. Oui, ça veut dire qu'on peut avoir un certain état de fait dans notre vie, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de nourrir à l'intérieur de nous, vous comprenez la subtilité? Ça n'empêche pas de nourrir à l'intérieur de nous une autre vision, une vision de se dire, oui, bah, peut-être j'ai fait ça dans ma vie, mais je comprends ce qui est juste, et que ce qui est juste, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors je le nourris à l'intérieur de moi, même si j'arrive pas forcément et que j'ai pas forcément réussi à l'incarner à l'extérieur dans ma vie, alors je le nourris à l'intérieur. Vous avez un magnifique, mais alors celui-là, c'est un message sublime, mais on en a tellement reçu. Mais un message de Saint Jean qu'on avait reçu, alors il parlait pas du couple, mais il parlait de cette notion aussi d'avoir une vision plus grande, plus large que cette seule vie sur la Terre. Et il s'adressait aux porteurs d'anges, aux Esséniens. Et il disait, c'est pas grave, même si dans ta vie, là, actuelle, t'auras pas forcément réussi à être une incarnation, par exemple, de ton ange, de la vertu que tu portes. Tu dois la nourrir à l'intérieur de toi. On ne te demande pas d'être parfait à l'extérieur, vous comprenez? C'est important. C'est important. On ne te demande pas d'être parfait ou de représenter aux yeux des autres quelque chose de parfait ou d'idéal. On te demande, en tant qu'Essénien, le monde divin nous demande de nourrir. Par exemple, une autre vision de la bonté, de la douceur, de la paix, de toutes les vertus. Et alors, Saint Jean dit dans ce message merveilleux, il dit, en réalité, c'est pas forcément ce que tu as fait physiquement à l'extérieur qui compte, c'est toutes les intentions qui t'ont animé, tout ce que tu as nourri à l'intérieur. Et alors, il dit, dans une autre vie, peut-être une vie, peut-être quatre vies, cinq vies, 10 vies, alors tu réaliseras à la perfection les semences que tu avais plantées dans ta terre intérieure. 10 vies avant, eh ben, c'est peut-être 10 vies après que un arbre poussera de la vertu que tu as nourrie en tant qu'Essénien. Vous voyez? On a une vision beaucoup trop mortelle, beaucoup trop limitée, beaucoup trop enfermée. C'est important de le voir. Et pourquoi il nous disait ça, Saint Jean? Parce que c'est un merveilleux message, parce que bien sûr, il parle de sa relation aussi avec le Maître Jésus. Et il dit qu'en fin de compte, à la fin de sa vie, il a compris que Jésus avait déposé des semences sur la terre et que Jésus savait. Il savait, il le vivait de toute façon. Il savait que ce n'était pas pour maintenant, il en souffrait. Parce qu'il disait des paroles, il transmettait un enseignement qui n'était pas compris, qui n'était pas entendu par les hommes. Mais il savait qu'il plantait des semences pour le futur. Et à travers Saint Jean, notamment, il investissait parce qu'il savait que lui, Saint Jean, hein, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, hein, il parle de Jésus en parlant de Saint Jean, parce qu'il savait que Saint Jean, il allait engendrer tout un courant dans lequel nous, les Esséniens contemporains, nous inscrivons, comme les cathares, comme plein d'êtres qui ont œuvré avant nous. Alors il savait qu'à travers Saint Jean et le courant de Saint Jean, l'école de Saint Jean, et ben, toutes les semences que lui, il avait mis en terre, mais qui ne pouvait pas être accueilli, qui ne pouvait pas pousser de son vivant. Il savait que ça allait prendre le temps que ça prendrait, mais qu'à un moment donné, ça apparaîtrait et que les êtres humains commenceraient à vivre avec l'enseignement du Christ. Vous voyez? Donc vous comprenez, le message, c'est une subtilité, mais c'est important. C'est important. On ne travaille pas forcément dans cette vie pour récolter tout ce qu'on aura semé, vous comprenez? On doit avoir une vision plus large, on doit avoir une vision de Raphaël, justement, une vision des hauteurs, une vision qui regarde avec l'œil d'en haut, pas l'œil de l'homme qui est pris dans la temporalité, qui est pris dans le monde actuel et qui se dit, même en tant qu'essénien, on va se fixer des objectifs peut-être insurmontables, en voulant être parfait, en voulant correspondre, être l'image parfaite que serait l'essénien, et on n'en sait rien. Qu'est-ce que c'est l'image parfaite d'un essénien? Parce que ce n'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur. N'atrophie pas ton âme parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. Hein. C'est une parole d'Ouriel. C'est avant tout à l'intérieur. C'est pas l'extérieur qui apparaîtra quand on passera le voile de l'autre côté. C'est tout ce qu'on a nourri à l'intérieur et que les autres ne voyaient pas forcément de l'extérieur, que ce soit le sombre ou le lumineux d'ailleurs, hein, qu'on pouvait cacher peut-être le temps de notre vie sur la terre. Et puis après, quand on arrive en haut, et ben là, tout ce qui était à l'intérieur et qui ne se voyait pas sur la terre, ben c'est ça qui prend le dessus. Et l'extérieur, il disparaît. Hein. L'extérieur, il disparaît, c'est pas ça qui reste. C'est tout ce qui était nourri à l'intérieur. Et que peut-être les autres ne voyaient pas, mais on s'en moque. Est-ce qu'on vit pour les autres? Non, on ne vit pas pour les autres. En tant qu'essayant, on doit vivre réellement pour un monde supérieur et nourrir cette relation avec un monde supérieur. Donc voilà, c'est une petite. C'est une petite parenthèse, mais c'est vraiment important. Et si on veut nourrir, porter ce sceau de la famille, alors peu importe l'état dans lequel on est, peu importe ce qu'on a pu faire dans cette vie, on doit nourrir une vision supérieure du sceau de la famille. Et mettre vraiment des forces pour que ce sceau soit protégé dans le futur et que les vertus, les valeurs qui sont liées à la famille, elle puisse perdurer. C'est un des enjeux de la nation essénienne. On travaille pour ça. On doit restaurer une autre vision de la famille, du couple. Voilà. Et on doit avant tout le nourrir à l'intérieur de nous. Et le plus possible, tendre vers ça, bien sûr, jusque dans la vie extérieure. Mais l'extérieur, il découle de l'intérieur. Voilà. Donc c'est l'intérieur avant tout. Voilà, alors l'archange, c'est le psaume 199 de Raphaël, le point de vue du monde divin sur l'âme sœur. Alliance, mariage et couple sont trois mots qui définissent le même mystère vu sous des angles différents. Oui. Alliance, mariage, couple, c'est comme trois degrés qui va expliquer dans ce psaume. Au temps de l'alliance, le degré le plus haut de cette vision du sceau de la famille. Au temps de l'alliance, les hommes comprenaient la sagesse de la vie et ils accordaient la primeur à l'union avec Dieu. C'est ça qui primait au-dessus de tout. Ensuite est venu le temps du mariage, deuxième temps. Ensuite est venu le temps du mariage qui unissait un homme et une femme au sein d'une communauté, d'un peuple. La préoccupation principale de l'homme était de savoir avec qui il allait s'unir et qu'est-ce que cela allait engendrer. Dieu et le sens du sacré étaient encore présents dans cette union. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on ne comprend pas de nos ancêtres. Et nous, on va se dire, ah mais c'était sectaire. Pourquoi ils mélangeaient pas dans un couple? Pourquoi ils acceptaient pas telle ou telle union? Parce qu'en fait, ils cherchaient les bonnes associations. Ou en Inde, la vision des castes et tout ça, où nous, avec notre regard occidental, bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas, hein, comme partout, mais on comprend pas. Parce qu'on comprend pas que. On comprend pas cette notion d'association spirituelle. Et que si deux êtres s'unissent, mais qui sont complètement dans des mondes différents, ben, ça va pas forcément engendrer des résultats harmonieux. Moi, je l'ai vu dans ma propre famille, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Une union, mais où il y a comme de la rébellion quelque part, de ne pas accepter comme la classe sociale, entre guillemets, dans laquelle on est, de se dire, mais on peut faire ce qu'on veut. Et puis au final, où tu te retrouves dans une association qui conduit tout vers le bas, qui va dégénérer. Vous avez vous avez des passages dans la Bible judéo-chrétienne, qui vont nous sembler inconcevables, comment dire, choquants, inadmissibles, dans Moïse, hein, dans les livres qui parlent de Moïse, où à un moment donné, une femme va être mise à mort en étant enceinte, parce que, en fin de compte, elle a fait une mauvaise alliance, c'est-à-dire que une femme qui était dans ou un homme qui était dans le peuple hébreu s'associe avec une femme d'une tribu et d'un peuple où il y a de la magie noire. Et en fin de compte, et ben ça amène comme une malédiction, vous voyez, dans le peuple. Ils avaient une autre vision. C'est ce temps. Voilà, dont l'archange nous parle là, sur le mariage, on regardait pas juste ah, ça me fait plaisir, j'aime bien telle personne, donc je m'associe à elle. Il regardait tout ce que ça allait engendrer, même les conséquences que ça allait avoir sur la famille plus grande et même sur le peuple. Oui. Je dis pas du tout, on est dans un autre temps aujourd'hui, hein. On peut pas du tout revenir à ces choses-là, hein. Ce serait pas positif. C'est pour vous montrer qu'il y a vraiment il y a des époques, il y a des temps différents dans l'histoire de l'humanité, et il y a eu des façons de penser complètement différentes. Comme il nous dit avant, le temps de l'Alliance, quand il nous parle du temps de l'Alliance, bah, c'est-à-dire que les hommes, c'était même plus l'histoire du mariage. La préoccupation principale, c'était que le peuple, par exemple, si on parle d'un peuple, c'était que le peuple il soit uni à Dieu, avec le monde divin. Et c'est ça qui était important. Plus que tout, qu'on retrouve la dernière civilisation qui a été porteuse de ce temps de l'alliance, parce qu'il parle de l'alliance, du mariage et du couple comme trois temps, eh bien, c'est l'Égypte, qui elle-même était comme un vestige de civilisation bien plus ancienne. Eh bien, en Égypte, et le peuple tout entier le savait, que le fondamental pour que, justement, les couples soient heureux, les familles soient heureuses et tout ça, c'était qu'il y ait l'alliance avec le monde divin. C'est ce dont on parle aussi dans la nation essénienne. Ou pour nous, c'est le fondamental, c'est ce dont tout le reste dépend. Hein, quand Jésus parle de la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, il ne parle pas de la pierre de fondation, il parle de la pierre qui est tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire le pyramidion, ce qui unit le ciel et la terre. C'est ça la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, dont parle Jésus. C'est-à-dire l'alliance, parce que avant, dans les temps anciens, ben, c'est l'alliance qui était le plus fondamental, le plus important. Et les hommes le savaient, même sans être réellement conscients des enjeux, de comment ça se passait. Les hommes, la plupart des hommes dans le peuple, sans avoir accès au mystère, savaient qu'il y avait des êtres en haut de leur hiérarchie, en haut du peuple, qui maintenaient l'alliance avec le monde divin. Ils savaient que ces êtres étaient précieux au-delà de tout, parce qu'ils maintenaient l'alliance avec le monde supérieur. Et donc, ils savaient que tout le reste allait en découler. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les quatre sceaux, le travail, l'harmonie, comment dire, la divinité dans le travail, dans la santé, dans la famille, dans l'argent, découlait, il savait que ça découlait de cette alliance avec le monde divin qui était maintenue par certains êtres en haut de la pyramide du peuple. Si l'œil est dans la lumière, alors tout le corps sera dans la lumière. C'est une parole de Jésus qui parle de ces mystères. Voilà, donc vous voyez, le mariage, c'était un degré en dessous, mais où il y avait la conscience des mondes spirituels, des associations, et aussi des mauvaises associations, des choses qu'il ne fallait pas associer ensemble, sinon ça allait avoir des mauvaises conséquences. Aujourd'hui, vous vivez le temps du couple uniquement humain, à tel point que cela ne veut plus rien dire, en dehors du monde de l'homme. Cette question est d'ailleurs devenue une interrogation majeure, et l'humanité passe énormément de temps à essayer de comprendre comment fonctionne ce principe du couple. Les hommes se tournent vers les mondes subtils, spirituels, pour tenter de trouver des réponses à cette question du couple. Alors ils inventent des théories philosophiques, psychologiques pour se rassurer, pour tenter de donner du sens là où il n'y en a plus. Il existe notamment cette théorie de l'âme sœur qui a été prise à la religion, car les hommes cherchent inconsciemment l'aval des mondes supérieurs pour justifier des modes d'existence qui ne sont pas explicables dans le monde de l'homme par un point de vue uniquement matériel, physique. Même si leur vie quotidienne est totalement en dehors de Dieu et de sa religion, les hommes font des emprunts à la spiritualité afin de trouver une réponse à leurs actes, un remède à leurs problèmes. Dans le monde de l'homme, cette théorie de l'âme sœur est un leurre. Les hommes cherchent à justifier par n'importe quel moyen leurs erreurs, leurs errances et leurs perditions, car ils veulent camoufler leur médiocrité. Je dis qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut être l'âme sœur d'un autre homme ou d'une autre femme. L'âme sœur de l'homme, c'est son âme. Voilà où il veut en venir, l'archange. La véritable âme sœur, c'est notre âme. C'est ce qu'a voulu montrer d'une façon très, comment dire, très claire, très parlante, notre ami Shakespeare. Je dis notre ami parce que Shakespeare, il fait vraiment partie de notre tradition. C'est un grand initié. Hein. C'est un grand initié qui a, à travers ses textes, parler des anciens mystères. Même Hamlet, vous avez Hamlet, où en réalité c'est le mythe d'Isis et d'Osiris, par exemple. Hamlet qui est réactualisé dans l'époque moderne, avec le frère du roi qui tue le roi. Donc ça nous parle comme de Seth et d'Osiris. Et puis vous avez cette histoire de Roméo et Juliette. Hein. C'est très clair. Il a voulu montrer ça quelque part, Shakespeare. L'impasse de ça, l'impasse de chercher son double, son âme sœur, dans un être à l'extérieur de nous. Ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas possible. Voilà, c'est ce qu'il veut nous dire, l'archange. Bien sûr qu'on peut trouver comme un associé, un être qui va nous compléter, et avec lequel ou avec laquelle on va pouvoir faire quelque chose, sur la terre. Mais c'est pas dans un être à l'extérieur que on doit chercher ce qui nous manque. C'est une voie de garage, c'est une impasse. Il faut se trouver soi-même. Il faut rétablir le lien avec notre origine divine. Il faut savoir qui on est. Et alors, si les deux êtres sont dans cette dynamique-là, dans cette orientation-là, à un moment donné, oui, ils peuvent s'associer et travailler ensemble, mais sans se reposer sur l'autre. Vous comprenez? C'est aussi ce schéma, ce symbole de l'arbre de vie. Vous voyez, vous avez les deux colonnes. Vous avez les deux colonnes du temple qui sont l'homme et la femme, la rigueur et la bienveillance. On peut pas vraiment associer la rigueur à l'homme ou la bienveillance à la femme. C'est les deux, quelque part, doivent porter ces principes. Mais c'est deux colonnes. C'est l'idée de deux colonnes, l'homme et la femme. Donc ils ne peuvent pas réellement vous voyez, abandonner leur colonne pour se reposer sur l'autre, sinon ça tombe. Chacun doit rester une colonne dans le temple, chacun doit porter son rayon, ce qu'il est. Et l'homme ne doit pas chercher, c'est des grands sujets d'actualité, hein. L'homme ne doit pas chercher à devenir une femme et la femme ne doit pas chercher à devenir un homme. On doit, non mais vous voyez un peu la responsabilité qu'on a en tant qu'enseignant aussi de rétablir ça, parce qu'on ne peut pas parler de sceau de la famille si on ne rétablit pas une vision claire aussi de l'homme et de la femme, du rayon de chacun. C'est ce qui est, c'est ça. Vous voyez, le sceau de la famille, c'est un homme et une femme. Ça peut pas être. Il n'y a pas de confusion. Bien sûr que un homme doit développer aussi un côté féminin, une certaine sensibilité. Bien sûr, ça c'est évident. On doit avoir les deux quelque part dans un équilibre, mais chacun quand même un rayon particulier. Et pareil, la femme, elle peut tout à fait, et c'est important, et elle le fait, d'être autoritaire aussi, d'avoir une certaine autorité avec les enfants, mais même dans la vie globalement. Donc vous voyez, c'est pas à l'homme qu'appartiendrait l'autorité, par exemple, et la femme, ou à la femme la bienveillance. L'homme doit porter la bienveillance, mais aussi la rigueur, et la femme, elle doit porter aussi ses deux côtés. Vous comprenez, mais ça doit être dans un équilibre. Parce que c'est certain que un homme comment dire, qui atrophierait, qui abdiquerait son cœur, donc on va dire sa sensibilité, donc un côté qu'on pourrait dire féminin, mais il va se durcir, il va s'enfermer, il va quelque part, il va être faux à la fin, il va mettre des masques, parce qu'il veut comme cacher quelque chose ou s'endurcir parce que il va avoir peur de s'ouvrir à l'autre. Mais c'est pas la bonne voie non plus. On doit savoir quand on doit être dans un côté féminin et quand on doit être dans un côté masculin. Vous voyez, les deux sont importants. Les deux sont positifs. Mais dans un équilibre, c'est toujours cette histoire d'équilibre. Et l'homme, notamment, il doit développer son côté féminin vers le haut. Il doit apprendre à devenir comme une épouse de Dieu, un calice, une coupe. Il doit être capable de s'ouvrir. C'est ce qu'on fait quand on prie. Quand on fait toutes nos prières, tous nos travaux sacrés, ben, quelque part, on est tous, qu'on soit homme ou femme dans le corps, on est tous dans une ouverture, dans un côté féminin, dans le sens que on veut être des épouses de Dieu, on veut mettre Dieu au monde. Et après, quand on est dans le monde extérieur, qu'on soit homme ou femme, on doit être capable d'avoir un côté fécondant, qui se laisse pas marcher dessus, qui voilà, qui sait se faire respecter dans le juste, hein. Mais voilà, qu'on soit homme ou femme, vous comprenez? C'est l'équilibre. Mais ce côté de l'âme sœur, voilà, c'est fondamental. C'est comme ce psaume, c'est un peu comme un désenvoûtement. Il veut nous libérer d'une idée qui a été amenée par la spiritualité du monde des hommes actuels, qui pour le monde divin est fausse, n'est pas réelle et est une impasse, est une voie de garage. C'est d'où le titre, hein, le point. Il a voulu nous donner le point de vue du monde divin sur cette histoire de l'âme sœur. Voilà, Shakespeare l'avait dit à sa façon, et l'archange Raphaël le pose là sans symbole, sans. Voilà, c'est direct. Voilà, donc l'âme sœur de l'homme, c'est son âme. L'âme peut vivre avec le corps de l'homme et lui révéler sa partie supérieure. L'âme peut vivre avec le corps de l'homme, lui révéler sa partie supérieure. Dans ce cas, l'homme devient un être complet, global. Il a un corps dont il connaît la fonctionnalité, et s'il vit avec son âme et qu'elle lui révèle son être supérieur, l'homme entre dans la plénitude de son être. Pourquoi l'homme cherche-t-il sa partie complémentaire à l'extérieur de lui? Parce que, ne vivant pas avec son âme, il ne peut la trouver dans sa nature supérieure, ou parce qu'il cherche à équilibrer les mondes uniquement à travers le monde extérieur. Vous devez savoir que la perfection n'existe pas à l'extérieur. Elle est essentiellement un chemin intérieur. Quoi que vous entrepreniez, vous n'obtiendrez jamais la plénitude à l'extérieur. Dans certains domaines, effectivement, l'homme et la femme peuvent s'entraider et se compléter. Mais cela ne fonctionne pas ainsi dans le domaine de l'esprit, dans les mondes supérieurs. Voilà, il veut nous dire que sur la terre c'est possible que l'homme et la femme s'unissent, mais dans les mondes supérieurs, l'homme doit être uni avec son âme. Il doit rencontrer son âme et vivre avec elle. Alors il pourra développer une relation juste avec le monde supérieur. Celui qui a un corps sur la terre a une fonction, une mission particulière qu'il ne pourra pas trouver dans une autre façon d'agir et d'être sur la terre à travers un autre individu. Voilà. Chaque être humain a une âme qui lui est propre et chacun doit être indépendant dans son être et son rayon, sa fonction. Cela n'enlève rien au fait que des aides peuvent s'accorder et s'entraider, apprendre à travailler ensemble. Et vous voyez, à la lumière aussi de notre enseignement, qu'on a chacun réellement une mission à accomplir. Ce n'est pas l'autre qui fera notre mission à notre place. Et on ne peut pas faire peser le poids de notre responsabilité ou de nos manques, de nos difficultés sur l'autre. On doit chacun assumer son rôle, sa fonction, sa mission. Et ça, c'est le gage d'une union harmonieuse. S'il y a une union avec un homme ou une femme, eh bien, elle sera harmonieuse dans la mesure où chacun s'assume et porte ce qu'il a apporté, le fait sans le faire peser sur l'autre. Mais on peut travailler ensemble, bien sûr. Il peut y avoir un partenariat, mais chacun doit porter sa colonne et être une colonne dans le temple. Rien de ce qui est à l'extérieur ne pourra vous apporter la plénitude et la réponse d'une façon définitive. À l'extérieur, vous pouvez trouver un certain équilibre, un appui, une aide, un réconfort, mais sachez que si tout est fondé sur ce monde extérieur, rien de bon ne naîtra d'une telle vision, d'un tel comportement, d'une telle quête. Chacun doit trouver le chemin de l'union avec son âme et vivre avec elle. Il n'est ni bon ni saint de chercher son âme dans l'autre. L'idée du mariage entre un homme et une femme est fondée sur le principe que lorsque deux êtres sont unis, un troisième apparaît qui doit être Dieu, le monde divin. Cela est la perfection, la grande bénédiction. Alors l'alliance est scellée et l'homme et la femme retrouvent leur origine. Vous voyez, quand deux êtres sont unis dans cette vision de servir un monde supérieur, alors ce qui apparaît entre les deux, ben c'est le monde divin. Et c'est la perfection. Dans votre monde, rien ne peut être en dehors du nombre 3. Il y a toujours le centre qui doit être Dieu, puis les deux compléments qui équilibrent les mondes. Ce qu'on voit ici, vous voyez, ça c'est un grand symbole de notre tradition, ce triangle qui est en haut de l'arbre de vie. Vous avez tous les mystères de la cosmogonie qu'on va retrouver dans le texte. Vous verrez ce soir le texte qui va être lu, un texte sacré qui a été écrit par Olivier en lien avec cette fresque égyptienne du couple sacré et qui est un texte sublime sur la cosmogonie et sur comment, quelque part, le couple est apparu, comment le 2 est né du 1, comment le 3 est né du 2. C'est ce qu'on voit dans ce triangle. Voyez. Vous avez l'origine, le 1, d'où naît le 2. Donc l'union du père et de la mère, d'où naît le 3. C'est ainsi, s'il y a 2, il y a 3, il y a une création. Il y a une création qui apparaît de l'union du 2. Et enfin, le 4 qui apparaît, c'est-à-dire ensuite la descente de l'âme dans la matière. Parce que le 4 nous parle de la matière et d'un monde qui va être constitué en dehors de Dieu, entre guillemets, même si rien peut être réellement en dehors de Dieu, mais un monde terrestre, un monde physique, duquel va pouvoir remonter tout ce qui est sorti de Dieu. Vous avez aussi les quatre archanges, vous avez Michaël, c'est le 1, Raphaël, c'est le 2, c'est les mystères du souffle, de l'union, du couple aussi. Michaël, Raphaël, Gabriel. C'est le 3, de l'union du 2, ben, naît le 3, et ensuite Ouriel, le 4, les 4 lettres. Vous avez le premier, c'est uniquement la première lettre du nom de Dieu, ensuite il y a la première et la deuxième, ensuite il y a la première, la deuxième et la troisième, et ensuite vous avez les 4 lettres du nom de Dieu, vous avez les 4 archanges. Vous avez le 10 aussi, hein, si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, c'est la totalité des mondes, c'est les 10 sphères de l'arbre de vie. y a vraiment des grands mystères dans. C'est lié, ce qui va être activé ce soir, quelque part, c'est lié aussi à ce triangle, à la création des mondes et comment rétablir l'harmonie entre tous les pôles de la création. Dans votre monde, rien ne peut être en dehors du nombre 3. Il y a toujours le centre qui doit être Dieu, puis les deux compléments qui équilibrent les mondes. L'homme et la femme formant le couple doivent être tournés vers le monde divin pour se rencontrer véritablement, pour être ensemble et trouver leur inspiration, leur climat d'amour, leur qualité de vie, leur mission et surtout pour faire apparaître l'âme qui se trouve au-dessus de chacun d'eux. Alors, retrouvant leur âme, l'homme et la femme sont complets et en ce sens, ils peuvent enfanter la lumière sur la terre, c'est-à-dire incarner le principe divin, donner un corps et une vie à la conscience supérieure. Je suis étonné de voir à quel point les humains ne pensent qu'au corps et ne regardent que lui. Certains diront que c'est la qualité de l'âme de la personne qu'ils préfèrent, mais en réalité, ils ne regardent que ce qui les intéresse et qui leur manque. Jamais ils n'accepteront la personne comme elle est, complète, surtout avec un monde supérieur. Ces théories sur l'âme sœur répondent à beaucoup de questions pour les ignorants qui veulent rester ignorants. Mais ceux qui aspirent au savoir véritable doivent définitivement comprendre que même si deux êtres s'unissent sur la terre, ils ne sont que deux associés qui doivent être au service de Dieu et de son intelligence supérieure. Tant que l'homme et la femme ne sont pas unis avec leur âme individuellement, ils sont incomplets et ne pourront donc pas se manifester tels qu'ils sont réellement. C'est pourquoi ils doivent s'accepter comme ils sont et ne pas se figer sur des apparences trompeuses. Ils ne doivent pas chercher en l'autre ce qui leur manque, car c'est une utopie de croire que l'on peut trouver son complément dans un aspect extérieur de l'existence. Je n'ai même pas à vous l'expliquer, car vous pouvez le constater tous les jours. Les êtres qui basent leur existence uniquement sur le corps finissent par se séparer au bout de quelques années de vie commune, s'apercevant que leur partie complémentaire ne se trouve ni dans le corps, ni dans la personnalité de l'autre. Voilà, après c'est la question d'Olivier, je ne vais pas forcément vous lire la suite, mais l'essentiel a été dit dans cette partie du psaume. Voyez, c'est tout un chemin, c'est toute une guérison aussi, hein, de guérir les deux principes en nous, de retrouver notre place, notre harmonie, de retrouver ce chemin de l'âme, de s'unir avec notre âme. De chercher la plénitude à l'intérieur et pas à l'extérieur. De ne pas faire peser nos difficultés, nos manques sur l'autre. Il y a tout, et après, c'est quelque part, c'est toute une école. Il y a comme une. Comme avait dit Olivier d'ailleurs à l'époque, on pourrait créer des. Comment dire des, comme des cabinets même de conseillers conjugaux. Esséniens, non mais vous imaginez, avec cette sagesse, avec cet enseignement, parce que là c'est juste esquissé, hein, mais il y a toute une science, tout un enseignement qu'Olivier nous avait donné sur les différents corps, la pensée, les sentiments, comment ils sont polarisés différemment chez l'homme et la femme, comment l'homme par exemple est négatif, c'est-à-dire réceptif dans sa pensée, la femme positive, inversement dans le cœur, puis inversement dans la volonté, puis inversement dans le corps physique, hein, où l'homme est positif, fécondant, et la femme est réceptive. Mais en réalité, c'est deux pôles complémentaires. Et là où l'homme est réceptif, la femme est émissive, etc. Il y a tout un, voilà, il y a tout un enseignement, il y a tout un, une école, une nouvelle vision à apporter et qui est. Et qui est la source de la guérison. Raphaël, c'est le sceau de la santé, c'est le grand thérapeute, c'est la guérison. Et si on accueille sa vision, alors on peut guérir énormément de choses, déjà dans l'invisible. Oui. Nous, quelque part, on est des mages, les Esséniens. On agit d'abord dans l'invisible, on agit à l'intérieur, on purifie, on guérit les choses dans l'invisible, et on sait que le visible suit l'invisible. L'extérieur suit l'intérieur. Donc, si on vivifie des nouvelles pensées, des nouvelles visions qui ne sont pas nouvelles en réalité, hein, qui sont ancestrales, qui sont éternelles, qui sont immortelles, mais qu'on a juste perdues, alors vraiment beaucoup de choses peuvent et pourront changer sur la Terre à travers les siècles, à travers la nouvelle époque. Hein. C'est une nouvelle époque qui doit naître, une nouvelle civilisation qui doit naître de la nation sénienne. On peut pas réellement, on peut comme l'envisager, on peut comme l'imaginer, mais on a du mal. Hein. On a du mal à le. On n'imagine pas la portée parce qu'on n'est pas si nombreux que ça sur la Terre. Mais en réalité, tout ce qui a été grand sur la Terre a d'abord existé en petit. C'est une certitude, c'est un fait, c'est pas une hypothèse. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et l'Égypte, on voit l'Égypte qui nous reste avec toutes les traces grandioses, tous les bâtiments, tout ce qu'ils ont laissé. On n'imagine pas qu'au début, la civilisation égyptienne, ça a été un petit noyau, un petit groupe d'êtres. Ils n'avaient aucun temple, ils n'avaient pas de pyramide, ils avaient des temples en bois. Voilà. Puis petit à petit, ça a grandi et ça a grandi. Ils ont nourri des mondes dans le subtil, dans la magie, et de plus en plus, ils ont fait apparaître des choses à l'extérieur, mais qui sont nées de l'intérieur. Ils ont pas attendu, ils vivaient vraiment avec leur âme, ces êtres-là. C'est-à-dire qu'ils attendaient pas de voir dans leur vie terrestre comment dire, la récolte. Ils cherchaient pas la récolte pour eux. Ils travaillaient réellement pour des mondes supérieurs parce qu'ils savaient que leur vie s'arrêtait pas à la mort. Ils savaient que quelque part ils étaient immortels. Ils savaient qu'ils travaillaient pour quelque chose de plus grand qui les dépassait. Ils cherchaient pas un résultat immédiat dans le plan physique. Ils œuvraient pour des grandes idées, pour des choses comme ceux aussi qui ont bâti les cathédrales et qui n'ont pas forcément vu de leur vivant l'aboutissement, vous voyez, le fruit, la réalisation finie, finalisée de ce qu'ils avaient initié. Pour eux, le principal, c'était de mettre, comme on dit cette expression, d'amener sa pierre à l'édifice. Voilà. C'était un honneur. Ben on doit réussir à penser comme ça. Si on pense comme ça en tant qu'Essénien, alors la récolte déjà sera pour les mondes supérieurs et on pourra bien sûr comme y goûter, y participer, mais ça ne nous appartient pas. Et on fait ça pour les générations futures, on fait ça pour des siècles et des siècles. Et nous-mêmes, nous reviendrons dans cette œuvre et nous la continuerons. Et vous verrez que hein, les fruits de tout ce qu'on a reçu, si on en prend soin, si on est dans la bénédiction et la sanctification, alors les fruits qui vont naître de ça seront inimaginables. Inimaginables. Mais ils seront forts, ils seront puissants de tout ce qu'on aura mis comme valeur, vous comprenez, comme intensité à l'intérieur, dans le subtil. Et pas pour chercher à vivre dans l'immédiateté du corps physique où on veut tout avoir maintenant, on veut tout, on veut une perfection, on veut un idéal, mais qu'on ne trouvera jamais puisque la perfection n'est pas de ce monde. Elle est dans un monde supérieur. Alors nourrissons nos âmes, œuvrons avec notre âme immortelle, avec notre âme sœur, l'unique âme sœur qui est simplement notre âme, notre âme immortelle qui veut vivre avec nous, qui veut participer à l'œuvre de la nation essénienne, qui veut œuvrer et se manifester à travers cette œuvre divine. Allons dans le temple en portant le souffle de notre âme. Soyons plus grands que nos corps, plus grands que nos vies mortelles. Vivons réellement pour des choses grandes, hein, des choses grandes et belles. Le vœu de Raphaël, que la nation essénienne donne naissance au sublime et apporte le souffle de vie et de résurrection au divin dans l'humanité. Ouais. C'est ça, Raphaël, c'est ce qui. Il veut que la nation essénienne donne naissance au sublime. Mais ça peut être que par ce souffle de notre âme, que si on vit avec notre âme, avec le souffle de la vie grande et belle. Alors par ce souffle, par cette âme, tu peux voler au-dessus des sphères, hein, c'est ce qu'il dit dans son vœu. Tu peux être comme l'aigle, tu peux t'envoler, tu peux voler au-dessus des sphères et comprendre tous les mystères de l'homme. Voilà. C'est à condition que tu vives plus grand que ton corps, que tu vives plus grand que la vie sur terre, que tu vives avec ton âme. Voilà, une belle journée dans le souffle de Raphaël, qu'on soit empli vraiment par ce souffle. Vous verrez cet après-midi la cérémonie du cercle des sages, c'est vraiment une cérémonie où on va appeler nos âmes. C'est vraiment une cérémonie qui invite à la grandeur, à entrer dans la grandeur et d'unir tous les mondes, d'unir tous les règnes à travers cette cérémonie. Tout à l'heure dans le temple. Merci.